Aujourd'hui, on est dans la série Rêve de Dieu et aujourd'hui le titre de mon message c'est Ne passe pas à côté du rêve. On est dans une série où on parle du rêve, le rêve de Dieu, on croit que Dieu a des plans, a des projets pour chacun d'entre nous. Peu importe si en ce moment tu es perdu dans ta vie, je veux te dire une bonne nouvelle, c'est que Dieu quand il te regarde, il te regarde avec de l'espoir. Il te regarde en disant j'ai prévu des projets, des plans, des rêves pour toi, il y a des promesses dont tu dois t'en emparer. Et ne laisse pas les circonstances te faire douter que Dieu a un projet pour toi, parce que la parole dit que Dieu a créé pour nous des projets de paix, de bonheur, un avenir, une espérance. Et si en ce moment même peut-être toi tu te dis je suis ici mais je sais pas quel est le sens de ma vie, peut-être certains sont nés dans des familles ou des contextes où même les parents ne voulaient pas d'eux, laisse-moi te dire que si tu respires en ce moment c'est que Dieu te voulait. Peut-être que les gens autour de toi te font douter de ta valeur, mais Jésus a donné sa vie parce que tu avais de la valeur. Il est mort pour te donner sa vie et aujourd'hui tu as un espoir en Christ. Et mon message va être vraiment pour que nous puissions entendre la parole de Dieu et c'est lui qui veut révéler le rêve au travers de nous. Amen. Et ce matin, mon titre de mon message, c'est « Ne passe pas à côté du rêve ». Parce qu'on peut, malheureusement, même si le rêve peut être là, même si Dieu peut nous donner des plans, on a le choix. On a le choix de prendre et de rentrer dans le rêve que Dieu a pour nous ou de passer à côté. Cette semaine, si vous n'avez pas vu, dimanche dernier, il y avait la cérémonie des Oscars et il y a une photo qui est sortie pas mal assez célèbre cette semaine, même si vous n'avez pas suivi les Oscars comme moi, j'étais en train de dormir pendant les Oscars. Et le lendemain matin, je me suis réveillé et puis là, un raz-de-marée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que tout le monde est au courant en ce moment de ce qui s'est passé, même si vous ne connaissez pas ni Chris Rock ni Will Smith. Il y a eu un incident alors que ça devait être la soirée de rêve de Will Smith. Il était là pour gagner un Oscar. C'est quand même pas mal le rêve de chaque acteur, n'est-ce pas? Je suis pas acteur, puis j'aimerais ça gagner un Oscar. Donc, t'imagines le côté où, waouh, ça devait être une soirée qu'il attendait depuis toujours. Mais le problème, c'est que sa soirée de rêve s'est transformée pas mal en cauchemar. Parce que même s'il a reçu un Oscar pour le prix du meilleur acteur pour un des films incroyables, il y a quand même eu, il a dû démissionner des Oscars à cause qu'il est venu sur le stage et il a mis une gifle au présentateur qui avait fait une blague de mauvais goût sur sa femme. Bon, après, je vais pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui s'est passé tout ça. Il y avait comme 15 article dans le Journal Montréal, La Presse, jusqu'à hier soir. Tout le monde en parle. Le monde entier parle plus que de ça. C'était la nouvelle. Mais ça m'a juste fait penser que Will Smith est passé à côté du rêve de passer une soirée et vivre un Oscar incroyable. C'est le moment où tu ne veux rien gâcher. Et malheureusement, il a dû démissionner des Oscars. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il refait un film incroyable, il ne pourra pas gagner un autre Oscar. Donc, il y a eu comme quelque chose d'incroyable. Et je me disais, dans la parole de Dieu, il y a un homme qui est passé à côté du rêve que Dieu voulait pour lui. On va voir aujourd'hui, dans un des textes des évangiles, un jeune homme qui arrive proche de Jésus et il y a il a un rendez-vous avec Jésus incroyable. Et alors que Jésus lui propose un rêve incroyable, inimaginable, il passe à côté. Il a le choix d'entrer dans les promesses de Dieu que Jésus lui propose. Et il a le choix de les refuser et il les refuse. Et on va regarder comment ce jeune homme-là est passé à côté du rêve de Dieu et comment nous pouvons apprendre de cette histoire pour ne pas passer à côté du rêve que Dieu a pour nous. Dis à ton voisin, je ne passerai pas à côté du rêve de Dieu pour moi. Même si avec votre masque, on vous entend quand même. Aujourd'hui, on va regarder justement un homme, et il s'appelle le jeune homme riche. C'est un texte qui se trouve dans Luc, dans l'évangile de Luc. Les quatre évangiles racontent les histoires de Jésus. C'est des témoins oculaires, des gens qui ont vu, qui ont rédigé la vie de Jésus. Et les quatre évangiles donnent des éléments complémentaires. Donc, dans l'évangile de Luc, c'est pas dit que c'était un jeune homme riche, c'est marqué un chef qui vient, mais on voit que dans les autres évangiles, c'est un jeune homme qui était riche qui vient à la rencontre de Jésus. Alors on va faire, avec les quatre évangiles, on va regarder à compléter les histoires de chaque évangile et on va le lire ensemble. Luc, chapitre 18, versets 18 à 25. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à la prendre et à la lire avec nous, comme ça vous pouvez surligner, prendre des notes. Si jamais vous n'avez pas votre Bible, c'est projeté à l'écran. On le lit ensemble. Vous êtes prêts? C'est la parole de Dieu, ouvrons nos cœurs parce que Dieu a un message pour nous. Dites Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Un texte qui est comme, wow, il y a beaucoup d'informations quand même dans ce texte. Mais on va voir comment ce jeune homme-là est passé à côté du rêve de chacune des personnes qui rencontraient Jésus. Vous voyez pourquoi? Jésus, alors qu'il était là, il était dans son ministère terrestre, il y a plus de 2000 ans maintenant, il a vécu 33 ans sur cette terre. Et pendant les 3 années de son ministère, de 30 ans à 33 ans, avant la croix, avant d'accomplir ce pourquoi il était venu passer sa vie terrestre, il a appelé des gens à le suivre. Il a eu une équipe qu'on appelle les disciples. Ils étaient 12 et ils allaient avec Jésus faire un ministère incroyable. Jésus les a formés pendant 3 ans pour qu'ils deviennent la Dream Team, l'équipe de rêve qui allait révolutionner le monde. Et cette équipe-là était composée de 12 personnes que Jésus allait choisir un par un. Il y avait des foules qu'il suivait. On voit les évangiles, des gens suivaient Jésus de loin. Il y avait aussi les 70, des gens qui étaient plus proches de Jésus, mais il y avait les 12. Voici le point. C'est que Jésus n'appelait pas tout le monde à faire partie de sa Dream Team. Tout le monde était appelé à suivre Jésus, bien sûr, vous me suivez? Mais Jésus était en train de choisir ceux avec qui il allait vivre, il allait passer ses voyages, il allait former. C'était son équipe auprès de lui, c'était son staff, entre guillemets. Jésus vient de proposer à ce jeune homme-là, « Vends tout et suis-moi. » Il allait devenir l'un des disciples de Jésus. C'était une joie incommensurable à l'époque. Mais cet homme-là a refusé l'offre de Jésus parce qu'il était riche. Il est passé à côté du rêve de Dieu à cause de son matérialisme. Et ce matin, on va regarder à 3 choses, pourquoi, comment passer à côté du matérialisme qui peut nous voler le rêve de Dieu. Les 3 manières de briser le matérialisme, on va regarder à la première en disant, il faut que tu reconnaisses que tout appartient à Dieu. Si tu veux briser le matérialisme dans ta vie, si tu veux que les richesses passent en deuxième et que Dieu passe en premier, il faut que tu le reconnaisses au-dessus de tout. Tout appartient à Dieu. Vous pouvez dire « Amen » quand vous voulez, hein. C'est une prédication interactive. Tout ce que nous sommes appartient à Dieu, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Qui est le propriétaire de vos vies? Qui est le propriétaire de vos finances? Qui est le propriétaire de vos rêves? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Dieu? La réponse de ce jeune homme a été « Je suis très spirituel, mais pas au niveau des finances. » Jésus disait « Soit c'est tout, soit c'est rien. » Il est reparti tout triste alors que Jésus disait, tu ne peux pas savoir le rêve, le plan, les promesses qui sont pour toi, mais tu as le choix. Dieu nous veut libres, ce qui fait que s'il nous enlève le choix d'être libres, on ne devient plus libre. Donc Jésus, même s'il connaît, il dit, je place devant vous la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, mais tu peux quand même choisir la mort. Tu peux quand même choisir de passer à côté du rêve que Dieu a pour toi. Quelle tristesse! Mais voici ce que Jésus dit, c'est que cet homme-là, Jésus lui promet quelque chose d'incroyable, il dit « Viens et suis-moi ». Il y avait un avenir incroyable, on connaîtrait son nom, on connaîtrait ce qu'il a fait, comme pour Pierre qui a fait des choses incroyables pour le royaume de Dieu. Ce jeune homme-là, on ne le connaît pas, son nom n'est pas cité. On sait qu'il est parti tout triste, je ne sais pas si peut-être à un moment donné il est revenu ou pas, on ne sait pas. On sait juste qu'il est parti tout triste après avoir rencontré Jésus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis tout tristes après avoir rencontré Jésus. Et un chronique 29, 12 nous dit justement, c'est David qui parle et qui dit de Dieu, « C'est toi ! C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est le propriétaire de tout ce qui t'appartient? Notre Dieu est celui qui a créé l'univers, qui a nommé les étoiles. Alors si on croit parfois qu'il y a des choses qui m'appartiennent et puis des choses qui appartiennent à Dieu, c'est pas fort. Il ne faut pas faire comme ce jeune homme qui a dit « Ah, moi, toute ma vie est spirituelle, mais sauf mes finances. Dieu n'a pas le droit de regard là-dessus. Il ne peut pas me dire ce que je dois faire avec ça. » Non, il faut que tu reconnaisses que Dieu, c'est lui qui a tout. C'est à Dieu, reconnais que tout appartient à Dieu. Maintenant, ce texte-là ne veut pas nous dire que Dieu est contre les riches. Écoutez-moi bien, c'est que là, Jésus va mettre le point sur son problème. Par contre, Dieu n'est pas contre la richesse. À Dieu appartient l'or et l'argent. C'est juste que, et si vous voulez regarder dans la Bible, il y a plein d'hommes et de femmes que Dieu a bénis d'une manière incroyable, qui les a rendus prospères, de Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Aucun autre homme sur la terre n'a été plus riche que Salomon. Et cette richesse vient de qui ? Vient de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, contre les choses. Dieu met juste le point à dire, si c'est lui ton Dieu, là il y a un problème. Maintenant, quelqu'un va dire, non, mais moi, je ne me prosterne pas devant l'argent, je ne me prosterne pas devant mon banquier, ce n'est pas mon Dieu. Non, mais si dans ton cœur, il a la première place, si tu te réveilles le matin avec une seule pensée, comment faire plus d'argent, et que tu te couches le soir en disant, j'ai regretté de ne pas avoir fait cet investissement, peut-être qu'en ce moment, c'est ça ton Dieu. Est-ce qu'il a la première place en ce moment? Cet homme-là, sa première place, c'était tout ce qu'il avait. Son identité était trouvée dans ses richesses. La Bible est claire, du début, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est le plus clair des manuels sur l'argent. Elle nous montre comment elle peut être un outil incroyable à la gloire de Dieu, une bénédiction incroyable, mais elle nous montre aussi où si ce n'est pas en Dieu, ça peut être une malédiction pour ceux qui sont esclaves. Et ce n'est pas un côté d'être riche ou pauvre, c'est d'un côté d'être matérialiste. Vous savez, il y a des pauvres qui sont plus matérialistes que des riches. Et il y a des riches qui sont plus matérialistes que des pauvres. Ça, ce n'est pas un état de compte, c'est un état de cœur. Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un sur le trône de ton cœur, autre que Jésus? Est-ce que l'argent est devenu un dieu? Jésus est clair, il le parle même, c'est un dieu entre guillemets qui s'appelle Mammon dans l'évangile. C'était une représentation de la prospérité. Et les gens le vénéraient réellement comme, ah ben nous c'est notre Dieu. L'argent était un Dieu. En ce moment, on le sait, ce n'est pas un côté de religion avec l'argent, mais c'est une question de cœur. Est-ce que l'argent est au numéro un dans ta vie ou pas? Parfois, les gens nous disent, non mais tu sais, mon argent, je me suis battu pour ça. J'ai mérité, j'ai travaillé fort. Si tu avais vu toutes les nuits où je me suis réveillé, si tu avais vu les entreprises que j'ai faites, j'ai travaillé fort. C'est à moi de gérer tout ça. Faites attention, si tu penses que tu es le propriétaire exclusif de tes biens, alors c'est pour cela que c'est quasiment impossible de donner, de relâcher, d'être généreux. Car tu te dis, j'ai tellement travaillé pour ça, j'ai tout sacrifié, je le mérite. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 4, 7, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est à Dieu qu'appartient tout. Si tu te dis, hey, j'ai travaillé fort, qui t'a donné la force? Hey, je me suis levé le matin, qui t'a donné le souffle? Hey, mais qui t'a donné l'opportunité de pouvoir avoir? Si tu as avancé, c'est que Dieu l'a permis. Rappelle-toi que tout ce que tu as en ce moment, beaucoup ou petite, tu dis, ah, moi-même, j'ai pas assez, tout ce que tu as vient de Dieu. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Tous les dollars que tu as emmagasinés ou que tu as épargnés, c'est peut-être Dieu qui t'a donné l'intelligence pour épargner quand c'était bien. Il faut que tu réalises que tu n'es propriétaire de rien, tu es juste intendant de ce que Dieu te donne. Mais c'est quel privilège ! Parce que si nous avons beaucoup en ce moment, nous sommes dans un des pays les plus riches au monde. On n'a pas beaucoup à se plaindre. Et même si, peut-être quelqu'un dirait, je me plains tous les jours que je n'ai pas assez d'argent. Mais sache combien de milliards de personnes aimeraient avoir ta situation en ce moment. Donc on est peut-être plus riche que bien des gens, mais en fait plus pauvres dans notre cœur. Parce que nos richesses, c'est juste ça que je vois. Quelle est la priorité de ta vie en ce moment? Est-ce que c'est de monter de classe sociale, et puis dans 10 ans, je serai là, et puis à ma retraite, et puis est-ce que c'est ça le plan de ta vie? Ou est-ce que c'est de bâtir le royaume de Dieu? En disant, mes finances, ça ne sera pas mon Dieu, ça sera un bon outil à la gloire de Dieu. Et Dieu a promis que je ne manquerai de rien. C'est pour ça qu'il est celui qui est le créateur de l'univers, il est le pourvoyeur de mes biens, et je n'ai rien, j'ai pas à craindre, j'ai juste à lui faire confiance. Est-ce qu'on peut ovationner notre Dieu qui prend soin de nous? Si je comprends que tout est à lui, je comprends alors que tout vient de lui. Et c'est là où la gratitude doit prendre la place dans nos cœurs. Au lieu de regarder à combien tu n'as pas encore, ou la job, ou la promotion que tu n'as pas encore. Non, sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Parce que si tu es reconnaissant, tu seras heureux. Les gens ne sont pas reconnaissants parce qu'ils sont heureux, ils sont heureux parce qu'ils sont reconnaissants. Change en arrière. Il y a des plus pauvres qui sont plus heureux que des plus riches. Le riche envie le pauvre qui sait dire « j'ai assez ». Il y a des multimillionnaires qui sont encore en train de chercher et puis ils n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils ont peur de faire un mauvais move d'investissement, alors qu'il y a certains plus pauvres qui se disent « j'ai assez pour vivre et merci Seigneur pour tout ce que j'ai ». Et c'est ça le vrai bonheur. Est-ce que ta richesse, est-ce que ton bonheur, ta joie, ton espoir est mis dans tes richesses ou est-ce qu'elle est en Dieu qui, lui, pourvoit à tous nos besoins? Tout n'est que grâce. Trouve pas ton identité dans tes richesses. Il voyait, ce jeune homme-là, voyait Jésus comme un bon enseignant. C'est même pour ça que Jésus va comme ironiser avec lui en disant « Oh, mon bon maître !» Jésus voit qu'il vient vers lui juste en tant qu'enseignant. Alors Jésus va jouer dans son jeu, il va dire « Mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul. Si tu ne me reconnais pas comme Dieu, alors redonne juste. » Jésus va comme le confronter à dire « Hey, si jamais tu veux être spirituel, tu dois savoir que tout est spirituel. » Lui, ce jeune homme-là, était devant Jésus, qui est Dieu incarné, qui est celui qui a donné toutes ses richesses à cet homme-là. Mais lui ne le reconnaît pas. Alors il fait une dichotomie entre « il y a du monde spirituel et il y a un monde financier ». Est-ce que tu es prêt à dire, comme on l'a chanté ce matin, « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout, je dirais, que ton nom soit béni. Es-tu capable de bénir Dieu en toute situation, en sachant que tout ce qui t'arrive est sous le contrôle de Dieu, et tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Dieu ne fera jamais quelque chose qui ne sera pas dans notre intérêt. Même si on pense que, ouais, mais garde ça, ça m'a comme guidé vers quelque chose. Non, tu le verras au bout. Tu verras au bout du chemin que, waouh, Dieu a vraiment agi et il m'a permis de ne pas avoir cette offre-là pour pouvoir être béni. Si tu crois que Dieu est le pourvoyeur de tout, il ne faut pas que tu t'inquiètes de rien. Est-ce que je peux entendre un amen? Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Est-ce que tu prends la gloire et la reconnaissance avant Dieu? Est-ce que tu te dis, j'ai tellement de richesses, mais j'ai travaillé fort. Est-ce que tu te glorifies de tout? Ou est-ce que tu es juste en train de dire, Seigneur, merci pour toutes les opportunités que j'ai eues. Merci pour les collaborateurs qui m'ont fait confiance. Merci pour les banques qui m'ont prêté. Est-ce que tu es reconnaissant en tout? Parce que celui qui te paye ultimement, ce n'est pas toi ni ton banquier, c'est Dieu. Alors toutes nos richesses, tout ce qu'on a, nous vient de Dieu. Et si tu reconnais qu'il est le propriétaire de tout, alors tu n'auras pas de mal à lui rendre ce qu'il te demande. C'est mon deuxième point. Comment briser le matérialisme? Reconnais qui est Dieu et rends-lui ce qu'il te demande. On a un choix, le choix d'obéir à la parole de Dieu ou pas. Ce jeune homme-là est devant Jésus et Jésus lui dit, « Toi, vends tout ce que tu as et suis-moi. » C'était radical pour lui. Et si on croit que Dieu est bon, tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. Mais là, on pourrait dire, « Mais quand même, Ben, il lui a demandé de tout vendre, tous ses biens et de tout donner aux pauvres et de le suivre. » Mais c'est comme juste fou. N'est-ce pas? Des fois, on lit le texte, on dit comme Jésus était comme pas mal bold, là, tu sais, était comme radical. Laisse-lui une chance, tu sais. Demande-lui comme on va voir. Non, Jésus dit, garde, si tu veux faire ça, tu veux être réellement un homme qui me suit, vends tout et suis-moi. On pourrait même dire, Jésus, c'est méchant. C'est comme un test que tu lui fais que, regarde, qui peut dire OK à ça? Mais il y en avait qui avaient dit OK. Les premiers disciples ont été prêts à abandonner leur filet et à suivre Jésus. Jésus ne demande pas la même chose à tout le monde. Ça ne veut pas dire que, est-ce qu'il faut être prêt à tout abandonner pour Dieu? Oui, mais Dieu ne nous le demande pas. Je ne suis pas en train de vous dire, hé, bonne nouvelle, bienvenue à Nouvelle Ville à Prairie, vendez tous vos biens et revenez dimanche prochain. On sera comme, non, ce n'est pas ça, le texte de ce qu'il dit. En fait, Jésus n'est pas du tout méchant avec cet homme-là. Jésus est son sauveur, et vous savez pourquoi? Parce que cet homme-là était esclave de son argent. Donc Jésus vient exactement lui donner une porte de sortie pour son problème. Il dit, toi, ce qui te retient de réellement rentrer dans le royaume de Dieu, c'est tes richesses. Vends tout, lâche tout, ne garde plus aucune chaîne, prends tout, vends tout, donne tout aux pauvres, puis suis-moi, tu verras, la vraie richesse est avec moi. Cet homme-là était esclave de ses richesses, le matérialisme était son Dieu, ce qui fait qu'il est reparti tout triste. Est-ce que tu es prêt à lui rendre à Dieu ce qu'il te demande? Il ne demande pas à tout le monde, vends tout ce que tu as, enlève ta maison, dis à tes enfants, il n'y a plus d'héritage, désolé. Non, il ne dit pas ça. Non. Chaque situation est spéciale, mais dans ce principe-là, es-tu prêt à obéir à la voix de Dieu? Et vous savez, c'est quoi la parole de Dieu pour nous? C'est la Bible. Jésus n'est plus sur terre en ce moment, il est à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu est toujours ici et il nous convainc que cette parole est une parole de Dieu pour nous. Et vous savez ce que Dieu nous demande en ce moment? Amen. On peut applaudir notre Dieu qui pourvoit à continuer de nous parler. Mais en ce moment, alors qu'on se dit, cet homme-là, on pourrait dire, il y a un côté fou que tu te dis, mais il aurait juste dû obéir à la parole. Il aurait juste dire, eh, ça c'est le plus grand rêve que j'ai pour moi, j'abandonne tout et je le suis. Non, Jésus, il dit, obéis à ma parole, fais-moi confiance. Aujourd'hui, pour nous, ce que Dieu nous demande de lui rendre, c'est la dîme. Vous avez déjà entendu parler du principe de la dîme? La dîme, c'est dans Malachie 3.10, apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme vient du mot hébreu maaser, qui signifie un dixième. Un dixième de tous nos revenus que nous avons, nous le rendons à Dieu dans un acte d'adoration. Mettre Dieu en premier, c'est de lui dire, Seigneur, tu m'as demandé dans ta parole, et puis il y en a qui disent, oui, mais c'était sous la loi, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Si tu marches comme ça, c'est que tu dois donner plus que 10%, parce que c'est réellement vrai. Dieu ne vient pas briser la loi, il vient l'accomplir. Ce qui fait que si c'était œil pour œil sous la loi, et que maintenant il dit, priez et aimez vos ennemis, penses-tu qu'il va juste dire, oh, ok, ben, gardez le 10? Non, il dit, donne plus, viens accomplir encore plus que la loi. Donc, ceux souvent qui utilisent ça, c'est pour donner moins. Alors qu'en fait, si tu suis le raisonnement, c'est vrai, tu dois donner plus. Mais imaginons, partons de 10%. Certains disent, oui, mais ça, c'était sous la loi de Moïse. Non, avant même la loi, Abraham a donné la dîme avec Melchisédek. Il avait un choix et il a donné la dîme lui-même. Donc, ce n'est même pas sous la loi qu'on peut dire, oui, c'était contextuel. C'est une ordonnance de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour notre bien. Parce qu'à chaque fois que je reçois des revenus, et avec Sophie, ça fait des années depuis qu'on est chrétien, qu'on met ce principe-là en place, c'est que dès qu'on a nos revenus, la première personne à qui on dit merci, ce n'est pas Visa, Mastercard ou quoi, non, c'est Dieu. C'est je viens à la maison ici, à l'église locale qui représente la maison de Dieu aujourd'hui, même si on sait que nous sommes le temple, mais il y a le corps de Christ qui vient ensemble, qui veut avancer, qui veut faire une œuvre incroyable dans les villes, dans les communautés. Nous venons ici et nous rendons à Dieu ce qu'il nous demande. Et de 10%, et puis ça fait des années avec Sophie qu'on se dit comment on peut donner un peu plus. Et de plus en plus, on donne parce qu'on sait que ce qu'il nous demande, il le bénit. Et je préfère avancer dans la vie avec 90% béni de Dieu qu'avec un 100% pas béni de Dieu. La dîme, c'est pas un côté où Dieu veut ton argent. À lui appartient l'or et l'argent. Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton obéissance. Es-tu prêt à obéir à Dieu, à sa parole? Ce jeune homme-là a dit non, j'obéis pas. Et il est reparti tout triste. Même si nous venons et puis nous disons, Seigneur, ce que tu me demandes, des fois, c'est un pas de foi. Et c'est réellement. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais donné la dîme, des gens qui viennent à l'église depuis des années, mais qui n'ont jamais osé donner ça. Vous savez ce qu'on entend? Toujours en tant que pasteur, ceux qui donnent disent, j'ai toujours donné la dîme, puis je n'ai jamais eu besoin de rien. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Même quand des mois c'était difficile, quand des fois c'était dit, j'honore Dieu avec les prémices de mes biens, avec mes revenus, je lui donne et Dieu me bénit. On l'entend toujours. Maintenant, de l'autre côté, on entend toujours la même chose. Je ne donne pas ma dîme parce que c'est impossible. Ça ne fit pas dans mon budget. Ça ne marche juste pas. C'est impossible que je puisse donner 10%. C'est énorme de tous mes revenus. Waouh, ça ne marche pas. Vous savez quoi? Tu ne seras jamais capable de donner la dîme tant que tu ne commences pas à donner la dîme. C'est un test que Dieu nous fait. Il nous dit, mets-moi au défi et tu verras si moi, à qui appartient l'or et l'argent, j'ouvrirai pas sur vous les écluses des cieux. Et tous ceux qui donnent depuis des années, puis à la première réunion, il y avait des témoignages par dizaines, ils me disaient, c'est vrai ce que tu dis. Et des fois, ça fait mal dans une société très individualiste, très matérialiste, très capitaliste, où on parle d'argent, mais en fait, Dieu, il dit, en fait, peut-être que toi, en ce moment, t'es lié, t'es sous esclavage, et moi, je veux te libérer. Fais-moi confiance, et puis tu vas voir combien la bénédiction va te suivre. Tous ceux qui le vivent, est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement à notre Dieu qui pourvoit? Hier, alors qu'on mange, souvent le samedi matin, on va bruncher. Puis là, avec, avec toute la famille, on était dans un restaurant brunch. Et puis, alors que mon fils commande un plat avec une crêpe chocolat et tout ça, il commande un genre de chocolat au lait, mais avec quelque chose de différent, avec une crème chantilly au-dessus. Ça vous donne faim, hein? Et puis, juste, je lui dis, est-ce que je pourrais goûter? Vous savez c'est quoi sa réponse? Non, c'est à moi. Bon, ok, je suis comme bon, d'accord. Puis à la fin, je dis rien, puis je dis, est-ce que c'est toi qui vas payer pour toute la famille ou Il me dit non. C'est de quoi payer? Est-ce que tu veux la facture? Quelle facture? Il ne sait même pas ce que c'est vraiment. Mais je disais, c'est qui paye pour toute la... Et puis là, sa réponse facile, c'est maman. Mais parfois, on répond comme ça, pareil. Dieu nous dit, c'est qui paye? Ah, c'est mon patron. Non, non, c'est moi. Sophie et moi, c'est moi et c'est nous qui pourvoyons à tout ce que tu as. Mais parce que tu veux pas, parce que tu veux en garder, c'est comme, est-ce que c'est pas ingrat un petit peu? Le soir, on mange, on ouvre des chips, chacun a son paquet, ils prennent des paquets différents, et puis il ouvre, et de lui-même, il dit, papa, est-ce que tu en veux? Et là, j'en prends, puis je suis comme, merci, c'est vraiment super. Donc là, je l'encourage dans son partage. Et puis, alors qu'il voit que, waouh, je reçois des paroles de vie, alors que j'ouvre mon paquet, Il regarde son frère, en veux-tu ? Oui. Et là, tout le monde a commencé à sourire, partager. Je vous le dis, là, c'était spirituel. Il a vécu mon message avant que je le livre. Et puis, on était là, et puis il me dit, ah ouais. Et puis, je le vois avec un grand sourire, parce que je l'encourage. Mais je dis, mais c'est tellement la base, mais parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas en arrière. Des fois, nous, on est comme, oh non, il faut lui redonner. Mais c'est lui qui t'a tout donné. C'est comme un ami que tu invites à ta maison, il te ramène une pizza au complet, il la coupe en 10, et puis avant de partir, il dit, je peux prendre une slide ? Puis toi, tu dirais, non. Non, mais là, on est choqué avec une pizza, mais Dieu te donne tout. Tout ce que tu as, dont la pizza et l'appartement dans lequel tu manges ta pizza, et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Tout appartient à Dieu, et puis quand il nous dit, rends-moi ça, obéis-moi, fais-moi confiance. Je vous le dis, si mon fils avait manqué de chips à la fin du repas, j'en aurais ressorti 3 de paquets. Parce que tu as donné, parce que tu as béni, parce que tu nous as donné de la joie, tu as reçu de la joie, tu as partagé la joie, je vais t'en redonner plus. Et tu vas en partager. Et Dieu nous en confie beaucoup pour que nous puissions bénir beaucoup. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train d'engranger, et tu fais rien avec ça juste parce que tu te dis, j'en aurai pas assez si je donne. Dieu t'en a donné et c'est lui qui est une source inépuisable. T'inquiète pas, tu manqueras de rien. Celui qui met Dieu en premier, Dieu va l'honorer. Et je vous défie à tous les chrétiens qui donnent très peu ou qui ne donnent pas de façon intentionnelle. T'es juste, des fois, quand il y a quelque chose d'incroyable, une crise, tu dis « ouais, je vais donner », mais tout le reste, tu dis « non, 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 ben, chaque dimanche, ben, il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire, alors je ne donne pas ». Dieu vous met au défi aujourd'hui de dire « commence, sois intentionnel ». Commence à semer dans le royaume de Dieu et tu vas voir combien Dieu fait moissonner ces choses. Tu vas en avoir en abondance. Et ce n'est pas forcément de manière matérielle. Ce n'est pas « je donne 10, j'attends d'en recevoir 50 ». C'est que peut-être que tu auras la paix là où il y a le conflit autour de toi. Peut-être à la job, alors que tout le monde va être coupé dans son salaire, toi, tu vas avoir une promotion. Tu ne peux pas savoir combien Dieu va t'honorer, mais sache-le que si Dieu est bon, il fait tout pour ton bien. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui prend soin de nous ? Donner la dîme à travers l'église locale, c'est de se rappeler à chaque paye que Dieu est en premier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on oublie vite. Je me le dis vraiment à chaque fois que je reçois mes... Et puis, parfois on croit ça, c'est qu'on donne l'église, on donne la dîme à Dieu, à travers l'église locale. Ceux qui me disent, moi je ne donne pas une institution et tout ça, réellement, fais le calcul. Tu es certain que 10% de tes revenus, au moins, tu vas les donner ici et là, sans être structuré et intentionnel à donner dans une institution où tu sais que c'est bien distribué ? Impossible. Montrez-moi réellement. Ils avaient montré à un moment donné un chef politique qui disait « moi je suis généreux » et puis quand ils ont regardé ses impôts, ils donnaient comme 100 dollars par année. Et quasiment c'était un chèque fait pour un itinérant, puis l'itinérant n'a même pas de compte en banque. Il y avait comme de la folie qu'on se dit des fois « oui on est généreux » mais en fait réellement dans ce qui est, si tu n'es pas intentionnel, discipliné et obéissant à chaque fois à Dieu, tu vas manquer le but. Je connaissais un de mes amis qui, lui, quand il était jeune adulte, n'avait pas beaucoup de revenus et il donnait la dîme. Il savait que Dieu lui avait béni et puis il donnait. Et au plus son entreprise a grandi, au plus il avait de l'argent, même à un moment donné, il en avait trop. Il me disait, je ne sais même plus quoi faire avec ça. J'étais comme, merci Seigneur. Mais à un moment donné, il m'a fait une confession. Il a dit, j'ai comme arrêté de donner parce que j'avais l'impression que c'était trop ce que je donnais. Tu étais plus généreux quand tu étais pauvre que quand tu étais riche. Est-ce que tu as arrêté de donner ? Est-ce que tu donnes moins que ce que tu donnais il y a 10 ans ? Est-ce que tu donnes moins que ce que tu donnais l'année dernière ? Parce que, est-ce que ta générosité, on veut tous grandir spirituellement. On veut grandir dans tous les domaines de notre vie. Mais est-ce que tu grandis dans ton obéissance à Dieu d'être généreux ? Parce que si Dieu a été généreux envers toi, il veut que tu sois généreux envers lui et les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ? Je suis heureux et fier de partenir à Nouvelle Vie, une église, où même quand il y a des audits de Revenu Québec et Revenu Canada qui viennent voir les comptes, voir la gestion, ils donnent des notes de A+. Il y a même des rapports où ils disent qu'ils ont pris le cas de l'église Nouvelle Vie dans sa gestion financière saine, intègre, véritable, et ils l'ont pris pour faire des formations dans d'autres organismes à but non lucratif en disant « Vous voulez suivre un modèle ? Suivez le sien. » Et là, on peut être fier d'être dans une église qui est généreuse, mais qui gère bien. Tout ce que vous donnez ici revient au royaume de Dieu et se multiplie. Ce qu'on voit ici à la Prairie, c'est qu'on a dû passer à 2 réunions il y a quelques années. Encore la semaine dernière, il y avait trop de monde dans les pouponnières. Dieu amène des gens ici. Et on veut faire de la place, on veut faire des travaux, des rénovations pour que ce lieu-là soit encore plus adéquat. On va ouvrir une classe en bas avec les enfants. On veut qu'il y ait de la vie parce que si des gens viennent découvrir Jésus ici, il faut qu'ils se disent « le lieu est bien et j'ai une église locale proche de chez moi ». Quand on regarde Châteauguay, quand on regarde Drummondville, Charlevoix, on veut des églises dans chaque ville du Québec. Mais ça, ça passe par une église qui donne. Ça, ça passe par une église qui dit, je donne à Dieu, je rends à Dieu ce qu'il me demande. Fais-tu confiance à l'église? Fais-tu confiance à Dieu? Je riais alors que cette semaine, je voyais un article de quelqu'un qui a fait confiance à quelqu'un avec une grande somme d'argent et puis ce n'était pas le bon move. L'article, c'est « Jeu vidéo, un Chinois investit 1,4 million de dollars dans un personnage virtuel. Son ami le revend par erreur 552 dollars. » En Chine, un joueur avait dépensé approximativement 1 400 000 dollars pour améliorer son personnage dans le jeu en ligne Justice Online. Je ne savais même pas qu'on pouvait dépenser autant d'argent dans un site. Sinon, j'aurais fait créateur de jeux vidéo. Bref, mais là où... Non, je plaisante. Mais là, c'est des jokes, on a le droit de rire à l'église, ok? Prenez pas tout... Mais là, ne venez pas mettre une gifle, par contre. Non, je plaisante. Mauvais goût. Mais là où l'histoire devient dramatique, c'est lorsqu'il décide de prêter son personnage à un ami et que cet ami décide de le revendre, ce même personnage, pour seulement 552 dollars. Depuis, ils ne sont pas amis, ok? Non, il y en a un qui a attenté un procès envers l'autre et tout ça. Il y a eu vraiment il y a eu des dommages et intérêts sur l'acheteur qui ne devait pas... Ça. Ça a fait un truc incroyable. À qui confies-tu ton argent? Est-ce que tu sais que quand tu le sèmes dans le royaume de Dieu, Dieu va le prendre et va le multiplier? C'est spirituel. Celui qui moissonne peu récoltera peu, mais celui qui moissonne abondamment recevra abondamment. Il y a des principes de générosité de la part. Jésus n'a pas besoin de ton argent, il est celui qui détient l'or et l'argent, mais il veut ton obéissance. Et il sait que ton obéissance passe par l'argent, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La générosité peut être « waouh » et la semaine d'après, « oh ben non, je vais tout garder pour moi ». On a besoin, semaine après semaine, mois après mois, de se rappeler qu'il est le premier. La transition, et puis dans mon troisième point, c'est que Jésus nous demande de donner, et non pas seulement donner pour donner, mais donner avec générosité. Le troisième point, c'est donner avec générosité. Pour briser le matérialisme dans ta vie, fais pas juste obéir pour obéir, donner à reculons. Non, donne avec générosité. La Bible dit aussi libéralité. Est-ce que tu es libre de donner comme ça, sans être comme pris dans tous les côtés? Ah, mais est-ce que je vais en manquer ou pas? Donne avec joie, donne avec générosité. Pas seulement pour obéir à la parole, tac, tac. Non, non, donne avec joie, avec générosité. Réponds aux besoins autour de toi avec générosité. Cet homme-là, alors que Jésus lui dit, vends tout et donne tout aux pauvres. Jésus voulait bénir les pauvres au travers de lui, mais son avarice a fait que, non, je garde tout. Dieu veut se servir de nous pour faire une différence dans ce monde. Et il le sait, vous le savez, l'Église est l'extension de lui-même. En fait, c'est son corps. Nous sommes le bras de Dieu. Si quelqu'un veut, si Dieu veut apaiser quelqu'un en lui faisant un hug, c'est nous qu'il va envoyer. Si Dieu veut aider une vieille dame à porter ses courses, eh bien, c'est toi qui vas envoyer parce que tu habites à côté de chez elle. L'Église est le bras, le corps de Dieu. Si Jésus veut avancer dans ce monde, il a décidé de le faire à travers nous. Il n'avait pas besoin de nous en passant. Mais il a décidé d'être partenaire avec nous. Est-ce qu'on peut prendre le privilège, est-ce qu'on peut réaliser le privilège de dire « Le Dieu de l'univers a choisi de m'utiliser pour faire une différence. » C'est comme fou. Et il veut que nous soyons l'expression de son cœur, l'expression de son cœur généreux. Es-tu en ce moment généreux? Es-tu en ce moment plus généreux que l'année dernière? Faites un exercice introspectif. Est-ce qu'en ce moment tu es généreux? Tu donnes avec joie envers ceux qui ne peuvent pas te le rendre. Alors qu'il dit « Vends tout et donne-le aux pauvres », c'est en gros « fais une dépense folle ». Mais on pourrait dire « Mais c'est vrai, c'est comme dépenser dans des gens qui ne pourront pas, c'est comme un mauvais investissement ». Dieu dit « C'est inverse, mes pensées ne sont pas vos pensées, mais c'est pas que tu dois dépenser de manière terrestre, non, tu dois être un investisseur céleste ». C'est-à-dire que quand tu vas donner à des personnes qui ne pourront pas te le rendre, c'est pas une dépense folle, au contraire, c'est un investissement. Parce que regardez ce que Jésus dit, vends tout, donne tout aux pauvres et dans le ciel tu auras un trésor. Ce que tu sèmes dans cette vie au plus petit, à celui qui souffre, Dieu va te le rendre, il va te le garder en stock pour que quand on sera dans le ciel, parce que c'est l'espérance du croyant, notre vie ici va s'arrêter, mais notre éternité va commencer. Et Dieu, on aura à rendre compte des choses qu'on a fait dans cette vie. On aura à rendre compte de ce qu'on a donné ou pas quand Dieu nous a demandé de donner. On aura à rendre compte. Des fois, on croit que c'est juste ceux qui ne seront pas sauvés qui auront à rendre compte. Les chrétiens rendront des comptes également, vous le savez. On veut se tenir fier devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'aurais voulu donner encore plus. J'aurais voulu être encore plus heureux parce qu'à chaque fois que je sais que j'ai été généreux envers les plus pauvres ou pas, tu as béni, tu as fait une œuvre à travers de moi. Quel privilège. Vous savez, l'église de Melville, j'étais vraiment fier quand Pasteur Claude nous a annoncé au comité de direction que pour le mois de mars, l'église Nouvelle Vie a donné le montant record de 150 000 $ pour l'Ukraine. Pour une crise comme ça, il y a une église qui s'est levée et qui dit « On va faire une différence, on ne peut pas tous partir en mission avec Sonia, on ne peut pas tous faire des choses concrètes, non mais on va donner, on va prier ». Et on a prié pour que Dieu fasse quelque chose. Il y a des dons directement qui vont être donnés à des églises, à des gens qui ont perdu des familles. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour bénir un peuple qui vit une crise. Comme on l'a fait il y a des dizaines d'années, et depuis des dizaines d'années, dans des pays comme en Haïti, ou Mission Nouvelle Vie part aux Philippines, dans des pays d'Amérique du Sud ou en Afrique. On va répondre aux besoins parce que l'église est appelée à faire ça. On n'est pas juste là entre nous en disant « Oh, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On ne sait plus. » Non, non, il y a trop de besoins. Et en ce moment, je pense que l'Église devrait se lever encore plus pour y répondre. Êtes-vous prêt à vous lever et à dire, on va prendre part à l'œuvre de Dieu. On va semer avec générosité dans l'œuvre de Dieu. Ah, mais je n'aurai pas assez dans ce budget-là. Fais confiance à Dieu. Fais un pas de foi, tu vas voir que lui, il en fait trois devant toi. Il va aplanir ton sentier. Parce que tous ceux qui l'ont vécu, et je vous le dis, si je pouvais passer le micro à chaque personne, on aurait des centaines de témoignages qui diraient, Dieu ne faillit jamais. Il est le Dieu de la promesse, et même si des fois il y a un petit délai, comme on l'a vu avec l'histoire de Joseph dans les dernières semaines, Dieu change le mal en bien, Dieu change la disette en abondance. Dieu ne manque jamais à ses promesses parce qu'il est le Dieu qui donne, le Dieu qui est le plus généreux d'entre nous. Dieu nous bénit. Alors que les musiciens viennent et qu'on va prendre la communion dans quelques instants. Deux Chroniques 2, 9, 6, 7 dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En d'autres mots, sans contrainte veut dire, si tu te sens manipulé et obligé de donner, fais-le pas. Tellement d'églises qui font un travail incroyable dans les communautés. Mais plusieurs fois par année, les seules églises qui sont dans le Journal de Montréal sont les fraudeurs. Ceux qui manipulent des gens pour essayer de donner, gratter, puis partir, et puis avec des millions dans leur poche. Le nom de Dieu est sali à cause de ça. À cause de plein d'autres scandales, mais celui-ci en particulier. L'avarice, la recherche de l'argent, elle est tout le monde. L'esprit bien disposé, la chair est faible. Certains leaders d'église, malheureusement, et puis dans toutes les dominations, dans tous les mouvements, vous le savez. Mais il y a un scandale sur le nom de Dieu et sur le corps de Christ à cause des gens qui veulent s'enrichir. Je vous le dis, si vous vous sentez manipulé à donner, ne le faites pas. Il y a quelques semaines, alors que c'est dramatique, mais je prends ça comme une illustration. Il y a quelqu'un qui a fait un faux compte de moi. Il a appelé Ben Huyten, ministère, et puis il a pris toutes mes photos, famille, ministère et tout ça, et puis il commençait à aller s'abonner à des comptes sur Instagram des gens qui me suivent. Partout dans la francophonie, il y en a qui me connaissent d'Impact, il y en a qui me connaissent de... Peu importe. Et j'ai reçu des dizaines de messages en disant, Ben, tu m'as écrit, puis tu me demandes de l'argent, est-ce que c'est vraiment toi ? Il y a quelqu'un qui se faisait passer pour moi et qui disait, « Hey, j'ai rêvé de toi cette nuit. Et Dieu m'a dit, il faut que tu sois béni. Et alors que tu voici la manière dont tu vas être béni, tu vas écrire à l'orphelinat, voici un compte WhatsApp où tu vas envoyer de l'argent. Et quand tu vas envoyer de l'argent là, tu vas être béni. » Quelqu'un se faisait passer pour moi, manipuler des gens par dizaines, et je ne sais même pas combien en fait, en tout. Et des gens, merci Seigneur, avec sagesse, ils me réécrivaient en disant, « Oh, ça me paraît bizarre, est-ce que c'est toi qui me demandes de l'argent ?» J'étais comme, « Non ! Il était en train de salir mon nom. » Heureusement, depuis ce temps, le compte a été bloqué. J'ai demandé à tout le monde de le bloquer, mais c'était juste impossible. J'étais impuissant avec tout ça. Et je me disais, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour manipuler les gens pour leur gain personnel. L'Église n'a rien à gagner de vous. Elle veut tout donner parce que Dieu a tout donné. On ne pourra jamais rendre autant que Dieu nous a donné. Et Dieu nous demande de ne pas seulement bénir l'Église, mais bénir les gens qui ne sont pas dans l'Église. D'aller donner, comme l'organisme qu'on soutient avec Action Nouvelle Vie, des centaines et des milliers de paniers alimentaires vers des gens qui ne viendront peut-être jamais à l'Église. Notre cœur est de donner, pas de manipuler les gens pour prendre d'eux. J'étais tellement rassuré quand j'ai retapé le nom et puis que j'ai vu qu'il n'existait plus ce compte, mais je me suis dit, waouh, ça m'est arrivé à moi, pourtant je n'ai pas vraiment de contact avec les gens. Les gens écrivaient, c'était comme fou. Sans contrainte, il faut que tu donnes avec joie. Est-ce qu'en ce moment, tu te dis, je veux Seigneur, montre-moi peut-être autour de chez moi des gens qui sont dans le besoin, des couples, des familles qui n'ont peut-être pas assez pour se faire une épicerie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux être plus généreux cette semaine que je l'étais la semaine dernière? Et vous savez, tous ceux qui vont vivre ça, vont vivre des miracles incroyables. On aura peut-être le moyen de témoigner de notre Dieu, de son amour qui a changé notre vie. parce que je ne veux plus être sous les chaînes du matérialisme. Je ne veux plus être esclave de ce qui me tient dans ce monde-là. Je suis citoyen d'un autre royaume qu'ici. On est de passage ici. Et notre passage doit être le bon passage. Est-ce que je suis connu comme le radin de la famille ou comme le généreux? Est-ce que je suis connu comme celui qui ne veut pas parler à ses voisins pour pas qu'ils demandent leur tondeuse à gazon? Ou est-ce que tu es plus comme... Non, regardez, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, je veux le faire. Est-ce qu'on pourrait être une église qui se lève et qui ressemble de plus en plus à Jésus? Merci Seigneur, parce qu'on lui ressemble déjà. Mais est-ce qu'on pourrait marcher de plus en plus de faire que l'église soit de plus en plus belle jusqu'au retour de Christ, que quand ils reviennent, ils voient une église sans tache, belle, magnifique? Est-ce qu'on pourrait représenter Dieu avec son cœur généreux autour de nous, dans nos communautés? C'est un privilège de contribuer à la multiplication de ce que Dieu fait au Québec. Et à Nouvelle Vie, alors qu'on voyait les photos de Nouvelle Vie de Drummondville, Nouvelle Vie Châteauguay, Nouvelle Vie Charlevoix, ça c'est dans la pandémie que ça a comme pris place. Et vous savez quoi? Je crois que Dieu a une vision et a un rêve encore plus d'églises locales au Québec. Il y en a qui habitent dans les régions un peu plus éloignées, vous avez de la famille, on voudrait 10 églises de plus à Nouvelle Vie. Mais il va falloir qu'une église qui donne pour qu'on puisse voir la semence être récoltée. Il y a une moisson qui est là. La moisson est blanche. Il y a des gens qui cherchent la vérité et ils ont besoin d'églises locales pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'il y a trop de monde qui prêche tout et n'importe quoi et le monde est encore plus déçu. On a besoin de prêcher le Christ qui a aimé, qui a donné sa vie pour nous. Dieu a été généreux envers nous. Il avait tout. Il avait tout. Il n'avait besoin de rien. Mais vous savez ce qu'il a fait pour nous? Il a tout donné. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu une vie parfaite. Il a été torturé. Il a été injustement accusé. Et il a été sur une croix pour nous donner sa vie. C'est fou, hein? Comment Dieu change le mal en bien. La croix qui était un instrument de mort est devenue un instrument d'amour. Dieu a dit, il n'y a personne d'entre vous qui pouvait mourir sur cette croix et enlever le péché de toute l'humanité. Il y a juste une personne, c'est moi-même, c'est dans la Trinité, c'est Jésus-Christ mon Fils. Je vais l'envoyer pour que lui prenne votre place et que vous ne mouriez pas loin de moi, mais que vous soyez avec moi. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Il a transféré, il a dit « je prends ta dette », on l'a chanté tantôt, il nous a rachetés, on lui appartenait, on a été à notre compte. Et Dieu nous a rachetés en disant, non, mon fils a été trop, le prix que mon fils a payé pour toi est trop grand. Je te veux, je te recherche. Il nous recherche et encore aujourd'hui, il continue de nous poursuivre. Parce que c'est un Dieu qui, son amour est infini. On ne pourra jamais égaler sa générosité. Alors tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de lui dire, Seigneur, prends tout de nous. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Même ce qui me retient ici, je veux tout te donner. Mes chaînes enfin sont enlevées. Je ne veux plus être esclave comme ce jeune homme riche. Je veux venir dans la présence de Dieu et ressortir avec la joie, non pas avec la tristesse. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux pendant un instant alors que je vais prier pour vous ?